Bonjour.
Aujourd'hui, nous interviewons Angéline Petit, une sexologue.
Elle va nous parler de son métier. Cette interview est présentée par Loris
et Elora.
Allez, c'est parti.
Mon kaki.
Mosaïque.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale.
S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.
Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et personnel ?
Bonjour, bien sûr. Moi, je suis dans l'accompagnement psychocorporel depuis plus de 15 ans et je me suis spécialisée en sexothérapie récemment. Parce que j'observais que la plupart des fois, les gens qui venaient me voir, il y avait toujours un souci de manque d'amour. Et parallèlement, j'observais aussi une méconnaissance de la manière d'aimer, de relationner. Et j'ai vraiment à cœur de contribuer à remettre de l'amour au cœur des relations humaines et sexuelles et proposer une autre alternative, un autre exemple finalement que celui de la pornographie.
Pourquoi avez-vous voulu exercer ce métier ?
Eh bien, je crois que quand on est thérapeute, c'est avant tout pour se soigner soi-même. J'ai eu une enfance compliquée, j'ai subi de nombreux traumas, des violences psychiques, physiques. Et j'ai cherché évidemment à me guérir. J'ai voulu aussi faire profiter finalement de cette expérience. C'était une quête personnelle et en même temps une passion et en même temps quelque chose qui était présent depuis toujours. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je vois ce que les gens s'ingénient à cacher. Alors c'est un peu dérangeant pour l'entourage, mais dans le cadre de la thérapie, c'est très utile. Ça permet de gagner du temps. Donc aujourd'hui, je m'appuie sur mon expérience, ma connaissance et cette extra-lucidité.
Quelle est la différence entre une sexologue et une sexothérapeute ?
Alors effectivement, moi je suis plus sexothérapeute que sexologue. Le sexologue, c'est un titre qui est réservé au médecin. Donc le médecin, il va vous examiner, il va peut-être même vous demander de vous déshabiller et il va pouvoir vous faire des prescriptions. Le sexothérapeute ne fait pas ça. Dans les dysfonctionnements sexuels ou relationnels, en tout cas sexuels, plus de 90% des cas, c'est d'origine psychologique. Donc on va aller chercher finalement le petit grain de sable qui empêche, on va aller écouter, voir qu'est-ce qui se passe, quel a été ce blocage. Et dans un travail d'accompagnement et thérapeutique, on va résoudre ça de manière à ce que la personne retrouve son épanouissement sans passer par des traitements, plus dans le domaine de la psyché et du corps.
Faites-vous des ateliers de sensibilisation au sexe chez les jeunes ?
Je rêverais de faire ça. Je l'ai fait avec une association qui s'appelait Sésame. Malheureusement, j'ai pas continué parce que l'association était un peu éloignée. C'était compliqué au niveau logistique. Mais c'est une démarche qui est en cours. Je trouve important de pouvoir être là justement auprès des jeunes.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Ça fait 15 ans que j'exerce dans ce domaine et je me suis spécialisée récemment. Ça va faire un an que je suis en sexothérapie spécifiquement.
Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier ?
Voir la magie de la guérison, c'est-à-dire que quand on vient toucher, alors il y a des moments très émouvants, hein, quand les personnes nous confient des horreurs qu'elles ont vécues, il faut être là humainement, et en même temps de les voir se soulager, et de voir quand on vient toucher ce qui est guérisseur, et de voir la lumière dans leurs yeux, de voir leur cœur qui se met à rayonner, de les voir repartir avec le sourire, j'assiste à des moments de grâce, et c'est à chaque fois un trésor.
Comment êtes-vous devenue sexologue et sexothérapeute ? Vous avez fait une formation par exemple ?
Oui, alors sexothérapeute, le titre n'est pas officiellement reconnu, mais moi je me suis formée auprès de divers organismes, notamment aussi en systémie pour accompagner les couples.
Que veut dire se masturber ?
Alors se masturber, c'est se procurer du plaisir individuellement. C'est se caresser soi-même, c'est se faire l'amour à soi-même.
Est-ce que les femmes aussi se masturbent ?
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que ça a été longtemps tabou la masturbation. Avant on disait que ça rendait sourd, mais en fait c'est parce qu'il faut se mettre dans sa bulle. Hein, c'est un moment où on s'isole. Quand on est sourd, on n'entend pas ce qui se passe autour. Effectivement, les garçons, c'est peut-être plus facile d'accès parce que déjà in utero dans le ventre de leur maman, ils peuvent avoir accès à leur zizi. Que les filles, il va falloir aller chercher un petit peu et ça a longtemps été interdit et réprimandé. Mais effectivement, les filles comme les garçons ont le droit de se procurer du plaisir. D'ailleurs, l'orgasme est thérapeutique en lui-même, permet vraiment de soulager beaucoup de stress et de tension.
Quelle est la différence entre une envie et un besoin ?
L'envie, je vais la rapporter au désir, à quelque chose qui va être quelque chose qu'on n'a pas, mais aussi quelque chose qui nous met en vie. C'est dans ce qu'on entend, il y a un mouvement. Le besoin, c'est quelque chose qui est un état qui est à satisfaire. Souvent, l'envie, elle va motiver la réalisation d'un besoin. Le besoin, c'est la communication non-violente, qu'on parle bien. Souvent, on a du mal à identifier ses besoins. Ce besoin de calme, besoin de repos. L'envie va être le moteur, finalement, à réaliser le besoin.
Quel impact a le sexe sur notre corps ?
Le sexe, il est thérapeutique, au sens qu'il va y avoir des sécrétions d'hormones qui font du bien. L'orgasme, c'est un état de conscience modifié, donc ça va faire un petit peu comme un séisme dans notre cerveau, puisque c'est avant tout dans notre cerveau que ça se passe. Et donc, notre cerveau va inonder notre corps d'un cocktail d'hormones, d'endorphines, de prolactine, d'ocytocine, des hormones qui vont vraiment amener du plaisir, du relâchement. Et puis, il va y avoir aussi une accélération du rythme cardiaque, donc le sang circule mieux, oxygène mieux les tissus, les cellules, diffuse mieux toutes ces hormones aussi. Et de ce fait, ça va aussi mieux faire circuler toutes les cellules, les lymphocytes T, toutes les cellules immunitaires. Donc ça participe totalement au bien-être, à la santé, à la fois au bien-être physique, mais aussi au bien-être psychologique et émotionnel.
Est-ce que faire l'amour peut calmer notre stress ?
Oui, et en même temps, pour faire l'amour, si on est trop stressé, ça va être compliqué. Puisque, en fait, on va parler du système nerveux sympathique, qui est celui avec lequel on est stressé, et le parasympathique, qui est celui avec lequel on se détend. Et pour faire l'amour, il faut que les deux fonctionnent. Donc si on est trop stressé, ça va être compliqué de se détendre. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer par se masser, se parler, d'avoir un petit temps de phasage. Et ensuite, effectivement, avec toute cette sécrétion d'hormones, ça va participer au bien-être. Notamment aussi, ça va faire baisser le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc faire l'amour fait du bien.
Est-ce que être addict au sexe peut nuire à notre santé ?
Toutes les addictions sont une nuisance, dans le sens où c'est une privation de notre liberté. Quand on ne peut plus se passer de quelque chose, ça veut dire qu'on en perd sa saveur. On va reproduire quelque chose qui devient mécanique et qui perd finalement un petit peu de son goût, un peu comme un plat qu'on aime bien. Si on en mange tous les jours, on va moins l'apprécier. Donc l'addiction, elle est problématique et souvent, elle va cacher des traumas. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe derrière.
Qu'est-ce que la libido ?
La libido, on peut la parler aussi de désir. Ça va être notre thermostat d'envie sexuelle. Donc, c'est le désir qu'on va éprouver.
À quelle fréquence moyenne un couple fait l'amour ?
Alors en fait, c'est vraiment très variable suivant les individus. Et j'aime pas trop donner des étiquettes parce que dans la sexualité, tout est possible. Ce qu'il faut, c'est de trouver un partenaire pour qui cette fréquence est raccord. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a besoin de faire l'amour tous les jours ou tous les deux jours et que son partenaire, c'est juste une fois par semaine, ça va être compliqué parce qu'il ne faut jamais se forcer dans ce domaine. Donc il n'y a pas de règle établie. C'est celle qui va satisfaire aux deux personnes qui sont ensemble.
Est-ce que le sport a un effet sur notre sexualité et inversement ?
Le sport va permettre de décharger une tension émotionnelle, une tension physique, va faire baisser le stress et va aussi faire sécréter de la dopamine et des hormones qui sont un peu similaires à celles qu'on va retrouver lors de l'orgasme. Donc c'est intéressant d'avoir les deux activités finalement. À la fois, quand on a une surcharge émotionnelle, on va pouvoir utiliser le sport pour décharger cette surcharge émotionnelle et être disponible pour faire l'amour. Parce que faire l'amour, c'est créer de l'amour. C'est pas juste du sport en chambre. Même si, effectivement, on peut dire qu'il y a une activité physique. Faire l'amour, c'est pas forcément de la gymnastique. Il y a des machines pour ça, il y a des espaces pour ça, le plein air pour ça est très bien. C'est deux choses différentes. Mais effectivement, le sport contribue à être bien dans son corps. Et si on est à l'aise dans son corps, on fera plus facilement l'amour.
Mais qu'est-ce qu'une panne sexuelle ?
Alors, une panne sexuelle, c'est un terme qu'on va surtout employer pour les garçons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont perdre leur érection. Alors, il faut savoir que l'érection, elle fluctue. Ça, souvent, on ne le dit pas et qu'on ne bande pas sur demande. C'est comme les femmes, l'érection des tétons, on ne dit pas « bande du téton ». Ça ne se fait pas à la demande. C'est pareil pour le pénis. Et elle va fluctuer au fur et à mesure du déroulé de la relation. Donc la panne peut arriver avant, quand l'homme est trop stressé, parce qu'il a tellement envie de bien faire, qu'il se met la pression, et comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a le système sympathique qui est en place, il va être trop tendu, du coup il ne va pas être tendu au bon endroit. Et puis, c'est souvent ce qui se passe, c'est l'affect entre vraiment en ligne de cause.
À quel âge fait-on généralement notre première fois ?
Alors, ça fluctue, mais en général, ça reste quand même autour de 17-18 ans. Alors, c'est des chiffres avec des virgules, mais c'est souvent cet âge, oui.
On arrive malheureusement à la fin de cette interview. Avez-vous une parole à ajouter à notre incroyable questionnaire ?
Mais je pense que c'est ce que je disais au départ, c'est important, faire l'amour, c'est créer de l'amour. Et c'est vraiment pour moi le moyen de relier les êtres et c'est important. Je pense qu'on est dans un monde où on est trop dans de la compétition, dans de la guerre. D'ailleurs, du temps de mai 68, il y avait un slogan, il disait « Faites l'amour, pas la guerre ». Et si on joue avec les mots et les lettres, l'anagramme de ce slogan, c'est « L'orgasme apaisera le futur ». Et j'ai envie de dire que ça résume, tout est dit. Là, au lieu de se faire du mal, de se piquer, de se voler de l'énergie, eh bien, si on se donnait de l'amour les uns les autres, de plein de manières différentes, je crois qu'on vivrait dans un monde bien plus agréable. Et je pense aussi, à tort, qu'on pense que l'amour, c'est une faiblesse, que c'est un truc de bisounours. Or, l'amour, c'est une force. Parce que le premier réflexe qu'on peut avoir, ça va être de la défensive, ça va être de l'agressivité. Et de savoir rester dans son cœur et ne pas réagir de manière agressive, ça demande vraiment une grande discipline. Donc j'encourage tout le monde à être et faire l'amour.
Et on finit bien évidemment par la question traditionnelle. Quelle opinion avez-vous envers les radios situées au sein d'un établissement scolaire tel InfoRC ?
Alors j'avoue que je découvre et je suis ravie, je trouve que c'est une très belle initiative. Je suis enchantée d'être interviewée par vous et j'espère que vraiment ces radios vont continuer à exister.
Cette interview vous a été présentée par
deux farfadets pleins de vice et de malice totalement normaux que leurs géniteurs ont appelés Elora
et Loris. Non, c'est trop triste que ce soit fini.
Aujourd'hui, sur InfoRC, on recevait Angéline Petit,
sexologue et sexothérapeute. À une prochaine fois sur le
88.6 et
le 97.2.
Au revoir.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale.
S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.